Bienvenue sur le Rendez-vous Marketing, le podcast 100% dédié à l'acquisition en ligne. Quel que soit votre levier payant ou organique, vous trouverez sur ce podcast des astuces, des bonnes pratiques et des stratégies payantes appliquées par des experts et des marques e-commerce à succès comme Merci Andy, 900K, Spring et bien d'autres. Et quant à moi, je me charge de tout dégrossir avec mes invités ou en solo afin que vous puissiez mettre en pratique ces conseils et ces stratégies dans votre business. Mais attention, dans le digital, ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Alors abonnez-vous à ce podcast pour rester constamment à jour. Ce podcast est rendu possible par DHS Digital, qui est une agence d'acquisition multilevier experte des plateformes Facebook et Google que j'ai fondée pour accompagner les marques jeunes ou établies à accélérer leur croissance. Et pour y arriver, on a développé une approche holistique de la publicité qui combine media buying, testing créa et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Alors si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite de mon épisode sur le CRO, un épisode que j'ai enregistré avec Pablo Lenormand et Laurent Théry, qui sont deux experts CRO chez Uxia, une agence tech et CRO qui travaille principalement pour des e-commerçants. Dans la première partie de l'épisode paru la semaine dernière, ils m'ont détaillé tout leur process de CRO technique et comment l'appliquer. J'espère que vous avez déjà écouté ça. Et dans la suite de cet épisode, ils sont passés tous les deux en mode masterclass, puisqu'ils m'ont présenté tour à tour les best practices et les quick wins en CRO e-commerce pour optimiser votre page d'accueil, votre page catégorie, votre page produit, votre page panier et enfin votre page checkout. Donc c'était vraiment extrêmement dense, extrêmement qualitatif comme contenu. Donc j'ai vraiment adoré. Et ensuite, ils m'ont partagé les KPI à suivre pour mesurer la performance CRO d'un site, un peu comme on peut le faire pour l'acquisition. Ils m'ont également donné les KPI pour mesurer la progression quand on fait un test AB. Et enfin, ils ont terminé par me partager les éléments que l'on peut tester sur un site e-commerce pour améliorer la conversion. Tout ça en nous donnant vraiment des exemples concrets qu'ils ont pu mener pour leurs clients. Voilà pour ce programme. Je vous laisse maintenant écouter la suite de ma conversation avec Pablo et Laurent. Bonne écoute.
Avant de passer à la partie plus technique sur justement dont tu as beaucoup parlé, l'AB testing et également des questions que moi j'ai sur les KPI que vous utilisez en CRO, est-ce que vous pouvez nous partager peut-être des bonnes pratiques selon vous et votre expérience pour... on va dire des bonnes pratiques CRO, pardon, pour optimiser certaines pages d'un site e-commerce. Donc, ça peut être la page d'accueil, ça peut être la page produit, la page panier, la page de paiement, la page catégorie, ça en fait beaucoup. On aimerait bien avoir ces petits conseils, ces petits quick wins, si je peux dire ça comme ça, des trucs faciles à implémenter, ou enfin, peut-être pas faciles, mais en tout cas, des trucs qu'on peut implémenter à son échelle.
Des trucs, si vous ne les avez pas implémentés, c'est pas bien, les amis. C'est voilà. Carton rouge, comme dirait Laurent.
C'est ça que je veux dire.
Carton rouge.
Quick wins, c'est ça, c'est faut l'implémenter, c'est un truc facile, c'est comme mettre un call to action.
Exactement.
Publicité, c'est important de le faire.
Ouais. D'ailleurs, souvent les quick wins, on les récupère via l'analyse macro ou micro, comme expliquait Pablo en début d'épisode. Il y a plein de petites techniques pour ça. On peut aller voir les avis négatifs, on peut aller voir les forums, on peut également avoir tout l'historique des conversations qui ont été faites avec le support client. On peut avoir également le chat, parce que maintenant, on peut intégrer ChatGPT en... chat support sur son lead, sur son site, pardon. Et en analysant tout l'historique client, là, pour un de nos clients, par exemple, qui a cette technologie-là sur son shop, on a découvert énormément de pépites à implémenter et modifier sur le shop. Des questions qui revenaient de manière récurrente et ça nous a dégagé des thématiques. Mais il y a quand même des basiques à avoir en e-commerce sur chaque typologie de page. Donc je pense notamment à la home page, la page catégorie, la page produit, le panier, qu'il soit page panier ou panier flottant, vous savez les paniers qui arrivent par la droite là. Également le checkout qui en fonction de sa plateforme est plus ou moins customisable. Donc pour commencer la page home page, c'est la page la plus simple. En général, on essaie de la construire de cette manière-là. On a d'abord la hero, donc la première section visible en arrivant. Donc là, il faut avoir une USP, donc Unique Selling Proposition. C'est la proposition de valeur qu'on va expliquer très simplement avec un titre et un sous-titre, une sorte de punchline. Il faut qu'ensuite, on ait très rapidement les produits en visuel, parce que si on scroll et on ne voit jamais de produits, on ne donne pas l'occasion à l'utilisateur d'aller acheter un produit. Les différentes catégories, maintenant, il y a d'ailleurs beaucoup de shops qui inversent, qui mettent les catégories en premier avant de mettre les best-sellers, ce qui est pas bête, parce que comme ça, on comprend l'USP, on comprend ensuite les différentes gammes de produits vendus, et ensuite, on a les best-sellers qui arrivent juste après, qui sont voilà, une sorte de pré-filtre parmi toutes ces catégories, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, ce que tu dis, Laurent, c'est que ça rejoint le fameux test des 5 secondes. Je ne sais pas si tu connais Danilo, mais en gros, le test des 5 secondes, c'est de dire les gens qui arrivent sur ton site, tu leur fais tester, tu leur montres la home, la haut de la home pendant 5 secondes, et après, tu fermes le site et tu leur demandes ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont compris du business. Aujourd'hui, les e-commerçants français ne sont pas bons sur ce point-là et on les engueule à chaque fois. C'est que les IRO ne sont pas bien travaillés. On ne comprend pas quand on tombe sur un e-commerce ce qu'ils font, ce qu'ils proposent. Oui, c'est quoi ta value proposition? Et ça, il y a peu de e-commerce qui le font. Alors, quand tu es un e-commerce qui est connu, avec une marque reconnue, tu peux te permettre un peu plus de le faire. Mais quand tu as un e-commerce qui démarre ou qui est dans tes premières années d'activité, bah, tu as une partie de ton trafic qui est du trafic froid, qui ne sait pas exactement ce que tu fais, qui a besoin de se raccrocher à ces informations-là. Donc, quand tu arrives sur l'IRO, tu dois comprendre ce que le mec propose. Voilà.
Moi, je dirais, c'est qui vous êtes, qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce qui vous rend différent.
Exactement. Quel est votre pourquoi aussi. Ça, c'est hyper important d'essayer de plus ou moins de le faire transpirer dans l'aéro, parce qu'on ne vend pas simplement un produit, on vend un why qui fait que l'entreprise existe, quoi.
Un pourquoi, ouais. Ouais, du coup, ça, c'est le truc. Enfin, quand tu dis IRO, c'est vraiment ce qu'on vend en premier quand on arrive. Et puis après, quand tu descends, là, tu parlais de catégories, de produits, de best-sellers.
Qui aide du coup à la compréhension, comme disait Laurent, c'est pour ça que je disais ça, mais c'est de voir effectivement maintenant, tu vois de plus en plus les catégories de produits remonter dans la home, c'est que ça améliore ta compréhension du e-commerce, de ce qu'ils proposent, et ensuite derrière, du coup, les personnes restent sur ta home et ils naviguent sur ton site, ils ne se barrent pas.
D'accord.
C'est ça, c'est le fameux entonnoir, quoi. On comprend ta vente, enfin ton USP, ensuite, ok, on comprend tout ce que tu vends, ton panel, et ensuite on comprend tes meilleurs produits, ce qui marche le mieux, c'est le syndrome du restaurant plein. Si les gens les achètent, c'est qu'ils sont bien et donc il y a une forte probabilité qu'on puisse les continuer à les vendre de cette manière-là. Donc voilà, donc pour continuer sur la page d'accueil, ce qui est important également, c'est la réassurance. Trop peu de gens mettent de la réassurance sur leur page d'accueil. Donc ça peut être les avis clients, ça peut être le score sur Trustpilot global du shop, sur la partie SAV ou autre. Ça peut être, je sais pas, des influenceurs ou des expériences clients sous forme de vidéos. Il y a un site américain qui le fait très bien et d'ailleurs je crois que Crème Paris le fait également aussi.
Ouais, il y a Horace aussi qui le fait, je me permets, ouais, Laurent, ils ont changé un peu leur site là et ils ont des nouveaux trucs. Et sur la home, tu as de la preuve sociale dans tous les sens. La troisième section de la home, c'est les avis produits, enfin c'est les avis clients. Okay. Donc ils ont remonté assez haut. Tu as les avis clients, tu as les magazines dans lesquels ils sont passés juste en dessous et après un peu plus bas, tu as Instagram, les UGC, etc. Donc c'est ils ont trois sections dédiées au moins à la preuve sociale et à la rassurance, donc c'est énorme.
Okay. Hyper important, hein. Et surtout les chiffres, mettez énormément de chiffres quand vous pouvez en obtenir, bien sûr. Par exemple, comme plus de 24 000 femmes qui ont commandé le produit pour les culottes menstruelles ou peu importe. Et c'est hyper important de se rendre compte que on n'est pas le premier client à venir acheter le produit. Il y a vraiment un paquet de gens qui sont passés avant nous et qui ont acheté, et le site, il ne va pas disparaître du jour au lendemain, quoi. Il est là depuis longtemps et il est encore là pour longtemps, je pense.
Compris.
Une navigation claire et fluide, donc surtout en mobile, puisqu'en desktop en général, les thèmes sur Shopify ou autres sont assez bien construits, mais la différence, elle se fait surtout en mobile. Et moi, je pars du principe que si on ne peut pas naviguer sur le site d'un point A à un point B via le parcours en fait visuel sans passer par le menu, c'est que le site est mal construit. Donc de la home, on doit pouvoir cliquer sur une collection, dans une collection on doit pouvoir cliquer sur un produit, etc., etc. On doit pas aller de la home, cliquer dans le menu, chercher le produit qu'on veut, aller sur le produit. Là c'est une galère. Il faut que les gens, d'ailleurs on le voit dans Hotjar, hein, ceux qui drop très vite, c'est qu'ils cherchent des choses dans le menu, ils les trouvent pas forcément. Et ceux qui vont jusqu'au bout du parcours, c'est ceux qui ont vraiment suivi étape par étape. Oui. Et en général ils ont converti, quoi.
Le menu, c'est pas mal. Excuse-moi, j'allais t'interrompre sur le menu. C'est déjà, je trouve qu'évidemment, plus tu as de produits, plus c'est important d'avoir un menu qui est bien structuré. J'ai un mec client qui a un menu qui est monstrueux. Après, c'est vrai que tu sais que tu vas tout trouver sur son menu. C'est juste que tu dois passer beaucoup de temps dessus. Et sur mobile, c'est une galère. Mais je trouve qu'un menu, c'est au plus tu es simple, au mieux, je sais pas ce que vous en pensez, mais pas besoin de faire très compliqué. Éventuellement, sur la page collection, si tu as plusieurs catégories, tu les listes.
Ouais.
Faut pas faire un menu comme Apple. Je sais pas si tu vas sur Apple, tu as Mac, iPhone, accessoires et trucs. Enfin, non, c'est pas accessoires, c'est Watch, etc. C'est Apple, tu vois. Je sais pas si tout le monde a besoin de faire un menu comme Apple.
C'est clair.
C'est ça. D'ailleurs, ce que tu dis, c'est intéressant parce que ne cherchez pas à copier la concurrence bêtement. Si eux, ils ont fait ça, c'est qu'il y avait une raison qui n'est peut-être pas forcément valable pour votre business à vous. faites plutôt ce qui est logique pour votre business. Vous voyez, par exemple, typiquement, à l'époque, je crois qu'il y avait... je ne sais plus qui c'est qui faisait ça. Je crois que c'était peut-être Horace, j'avais un doute. On l'avait vu d'ailleurs avec Pablo. L'USP, en arrivant sur le site, on ne comprenait rien. Mais c'était propre à leur business, en fait. Parce qu'ils avaient fait un jeu de mots. Ou... Non, c'était peut-être... je ne sais plus, bref. Et c'était un truc qui était propre par rapport à leur site, avec un jeu de mots, un truc assez spécifique. Mais ils ne parlaient pas du tout d'USP, pas de produit, ni rien. Et finalement, quelqu'un qui aurait copié cette approche-là, il se serait tiré une balle énorme dans le pied, parce que pour lui, ce serait vraiment rien donné, en fait. Ouais. Donc voilà, il faut prendre ce qu'il y a à prendre et mettre de côté ce qui n'est pas forcément très bon pour vous.
Compris.
Bon. Dernière section qui est intéressante aussi dans la home à prendre en compte, et c'est ce qu'on appelle l'ultra-personnalisation, c'est afficher une section nouveauté et une deuxième section reprenez là où vous en étiez. Il faut penser que les gens, ils ont des parcours en plusieurs temps, en général. Ils ne vont pas arriver première fois sur votre site, acheter tout de suite. Il y en a qui le font, mais majoritairement, il y a une phase de réflexion, et en tout cas, le cycle d'achat est plus ou moins long. Donc, pensez à ces gens-là, ceux qui reprennent leur parcours parce qu'ils ont été interrompus pour X raisons. Ben, on leur met une petite section avec le cookie, reprenez là où vous en y étiez. Vous avez vu ce produit-là, ce produit-là, ce produit-là. Il arrive directement, c'est sous l'aéro quand il revient sur le site. Et un autre nouveauté, donc ça en général, c'est plutôt les cookies clients. Ils reviennent sur le site et là, on leur propose, voilà, bah, c'est plus la section des best-sellers, c'est la section des nouveautés qui est mise en avant tout en haut, en tout cas pour ces gens-là.
Ok, compris.
Après, pour rentrer dans l'autre partie, donc on vient de passer de la home, on arrive en général sur une page catégorie. Là, ce qui est super important, et malheureusement ce que trop peu d'e-commerçants font, c'est la gestion des filtres. Soit c'est très mal fait, soit c'est carrément absent. Et là, on a du mal à trouver le produit qu'on veut. Hein. Imaginons qu'il y a 50 produits, j'ai zéro filtre. Là, je vais me taper les 50. Et en mobile, c'est encore pire parce qu'on va les voir deux par deux. Donc, je vais devoir scroller 25 fois pour trouver peut-être mon produit qui est tout en bas de la liste. Donc, c'est un enfer. Ouais.
La page catégorie, c'est un peu le problème sur beaucoup de clients, c'est un peu angoissant pour l'utilisateur cette page en fait, parce que tu vas te retrouver avec plein de produits, tu es sur un e-commerce qui te plaît, avec une marque qui te plaît, tu sais à peu près le type de produit que tu veux, tu arrives sur une page catégorie, et là tu vois 50 produits de couleurs différentes et tout, et tu es là genre mais en fait c'est lequel qu'il me faut quoi. Et tu as beaucoup d'aller-retour en fait entre les pages catégories et les pages produits, parce que les gens ne savent pas quel produit leur correspond, tu vois. Donc c'est pas facile.
Sébastien, là, il a insisté beaucoup là-dessus. Il disait que les pages collection, c'est catégories, c'est généralement celles qui sont les moins bien optimisées, les plus négligées, et qui pourtant ont un gros potentiel quand elles sont bien optimisées, comme l'a dit Laurent, en ayant des filtres. Il en avait parlé aussi, donc je vous rejoins parfaitement là-dessus. Il expliquait également, après je vais se reprendre, que c'est comme un rayon, et si c'est le bordel dans le rayon, bah tu sais pas quoi choisir. Un rayon dans un magasin.
Ouais, c'est surtout qu'en plus c'est une page charnière, et en plus c'est une page critique, parce que comme tu disais tout à l'heure, les pubs, elles arrivent dessus. Donc oui, c'est la première page que souvent les gens vont voir quand tu as un large catalogue, mais sauf si tu fais du monoproduit, bah, tu envoies sur ta landing ou sur ta page produit, mais si tu as un catalogue assez fourni, en général tu envoies sur ta page collection, et bien si sûr. C'est le bordel, bah, tu as un taux de drop qui est énorme, et bah, les gens ils ne transfèrent pas vers les pages produits, donc tu crames de l'argent ultra bêtement quoi. Donc ouais, donc les filtres méga importants, les labels best-seller, nouveautés, en solde, c'est à ne pas négliger parce que ça oriente l'utilisateur. Quand il arrive dessus, il voit 50 produits. C'est comme 50 restaurants dans une rue à Montparnasse ou autre. Bah, si je me dis que dans le petit routard, bah, tiens, celui-là il était top routard 2023, celui-là il était gourmet 2 étoiles 2021, 2022, 2019, 2018, etc. etc. Bon, on se dit voilà, c'est une valeur sûre. Donc pareil, si on voit un produit qui a déjà un label best-seller ou qui a une forte opération commerciale dessus aussi, c'est qu'on se dit bah, c'est les produits en général qui carburent bien. Donc, et nouveau, bah, nouveau c'est important aussi parce que le mot nouveau, commercialement, il marche hyper bien. Donc ne pas s'en priver. Quoi.
D'accord.
Ça aide à guider en fait, les utilisateurs qui sont perdus aussi parce que du coup, ils ne savent pas trop quoi prendre. Il y a plusieurs produits qui les intéressent. Donc ces tags, ça peut les aider un peu. Les tags nouveautés, best-seller, ça les guide un petit peu. Et il y a un autre sujet aussi sur la page de catégorie, et après Laurent je te laisse reprendre, t'inquiète, c'est la partie merchandising et comment tu présentes tes produits en fait sur ta page catégorie et quels produits tu mets en avant en premier. Et là il y a un vrai sujet en fait, parce que est-ce que tu vas mettre des produits les plus chers en premier, est-ce que tu vas mettre les plus vendus, est-ce que tu vas mettre les produits qui ont où tu fais le plus de marge, et en fonction de ça, c'est ce qu'on appelle le e-merchandising, et c'est hyper important sur une page catégorie parce qu'en fonction de la stratégie que tu vas adopter, tu n'auras pas du tout les mêmes résultats. Donc, je peux te donner un exemple. Par exemple, c'est l'effet d'ancrage sur la page catégorie. Un effet d'ancrage que j'aime bien, où en gros, tu mets les produits les plus chers en haut. Et comme ça, du coup, les produits en dessous paraissent moins chers et donc sont plus facilement cliqués et le taux de conversion augmente derrière. Okay. Donc, tu as des techniques comme ça de merchandising sur la page collection qui peuvent vraiment faire que la page collection va marcher ou pas. Il faut bien réfléchir à ce que tu veux mettre en avant en premier, quoi.
Ça me semble bien avancé comme conseil, mais j'avais déjà entendu, donc c'est top. Merci.
Ouais, non, c'est hyper smart. Donc, genre, tu mets entre 2 et 4 produits assez chers en haut et après, bah, tu sais que derrière, ça va dérouler. Okay. Donc, tu as un peu de technique aussi, ce qu'on appelle, nous, les achats rapides. Donc, ça, c'est pour des petits consommables ou autres. Si la personne, elle est habituée à ton shop, c'est une cliente régulière et elle vient acheter, je sais pas, 3-4 fois dans l'année, il faut qu'elle ait l'achat rapide en un clic, ce qu'on appelle les one-click, les one-buy. Et ça, elle doit pouvoir le faire depuis la page collection. Il ne faut pas qu'elle perde de temps à aller dans la page produit puisqu'elle connaît déjà le produit. Ouais, elle vient juste refaire son stock, en fait.
Mais je vois
ce que tu veux dire. Donc, elle se met dans la page collection et elle en bombarde 3-4 et elle a refait son stock.
Alors, ce point, excuse-moi, Daniel, t'as recoupé. Ce point, il est A-B testé pour le coup parce que ce n'est pas anodin de mettre un ajout au panier sur la page catégorie. Ça dépend de votre panier moyen et de si vous avez du recurring ou pas.
Comme bien dit Laurent, stratégie, totalement. Ouais. Important.
C'est si t'as un panier moyen qui est faible avec un recurring qui est élevé, parce que les gens reviennent pour recommander, là tu mets de l'ajout au panier, ça va marcher. En revanche, moi je viens acheter une montre ou je viens acheter un vélo à 3000 balles sur un site, j'arrive sur une page collection, je vais pas ajouter au panier depuis la page catégorie, je vais d'abord aller voir la page produit pour me renseigner sur le produit et prendre le temps de me renseigner. Donc, on avait fait un A-B test d'ailleurs, une petite anecdote, on a fait un A-B test pour un client dans le luxe et on avait A-B testé des boutons ajoutés au panier versus découvrir qui te renvoyaient vers la page produit. Et en fait, les boutons découvrir marchaient beaucoup mieux sur la conversion que le bouton ajouté au panier pour ces produits-là, pour ce business-là.
Pour des produits chers, ça ne m'étonne pas dans le luxe. Okay. Voilà.
Donc, A-B testé. Voilà.
Donc, page catégorie, vraiment, c'est indispensable là à faire. Il y en a encore plein d'autres, hein, mais on ne va pas s'éterniser sur ce sujet-là. Au pire, vous écoutez un petit peu les podcasts qu'on a déjà fait. On a vraiment détaillé page par page les best practices qu'il faut mettre. Donc là, vas-y.
C'est quoi le nom de votre podcast pour les auditeurs?
Force et conversion. Vous nous trouvez sur Spotify, enfin toute la bande.
Apple Podcast. Force et conversion.
Ouais, vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses, notamment pour ceux qui veulent les hors-séries. C'est vraiment là où on donne. On rentre vraiment dans le détail de ce qu'il faut faire. Les podcasts, en général, où on reçoit des invités e-commerçants ou des prestataires, là, on parle un petit peu de certains aspects très précis, mais les hors-séries sont vraiment structurés. Vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses.
D'accord. Okay.
Donc ensuite, la page produit, parce que voilà, à un moment donné, il faut qu'on arrive à vendre nos produits un jour. Donc la page produit, elle a vachement évolué depuis les débuts de l'e-commerce. C'est pour ça que nous aujourd'hui on l'appelle la page produit 2.0 parce qu'en fait je pense qu'on est rentré dans une version une page produit plus améliorée et elle est construite de cette manière là. Donc on a le fameux bloc information avec le prix, le bouton ajout au panier, le nom du produit, toute la rassurance, si on a les modes de livraison plusieurs fois, etc. Ça c'est le bloc info. Et on a le bloc image qui s'est transformé. Avant, je pense que Daniel, tu devais connaître, c'est l'image qu'on appelle la main image en gros, et tu avais un petit carrousel de vignettes juste en dessous, tu vois.
Oui, ça, je vois beaucoup ça.
Voilà, maintenant, ça a évolué dans la page produit 2.0, donc il y a plusieurs sites qui le font. Hein. Il y a Fago, il y a Asphalt, il y a encore plein d'autres. Aspire. Voilà. Et en fait, tu as le bloc info à droite qui est bloqué, qui est figé, donc qui est sticky. Ouais. Et à gauche, tu as un carrousel vertical de deux images par ligne, assez grosses, qui prennent quasiment deux tiers de la largeur de la page et qui scrollent verticalement. Donc, en fait, tu es obligé de te prendre toutes les images. Tu peux pas les skip. Donc, ce qui fait qu'en fait, tu vas baigner dans le produit en lui-même. Alors qu'avant, tu avais juste une image et tout de suite, tu scrollais, tu rentrais dans la page produit avec d'autres détails un peu plus techniques, description ou autre. Mais tu étais peut-être passé à côté de certaines informations clés qui étaient dans les images, tu vois.
J'aime bien ce conseil. Donc, Fago, Asphalt, Respire, c'est des exemples.
Ouais. Exactement. Très bon exemple. Après, ce qui est important aussi dans la page produit, hormis cette construction-là 2.0, c'est d'instaurer en fait, de l'urgence, de la rareté, ce qu'on appelle le fameux FOMO. Et pour ça, il y a plusieurs astuces. Hein. Livraison offerte pour les 500 premières commandes, il reste X produits restants. Donc ça, il faut trouver le bon dosage, hein, que ça ne fasse pas si dropshipping avec des compteurs dans tous les sens. Il ne faut pas non plus abuser et dire bah, en ce moment, il y a 92 personnes sur la page. Elle a été consultée 2300 fois. Non, les gens, ils sont pas teubés. Ouais. Donc, il faut vraiment soit des chiffres au plus proche du réel. D'ailleurs, on ne vous invite pas forcément à mettre des faux chiffres. Il faut, si vous pouvez faire ça de manière dynamique avec les vrais chiffres qui peuvent remonter des stats et qui peuvent s'afficher sur la page, c'est encore mieux. Mais voilà, jouer un petit peu sur ce côté rareté, perdre le produit, l'urgence et aussi le fameux la confrontation. C'est-à-dire que, par exemple, il reste 5 produits. Typiquement, ce qu'on a expliqué, hein, et il y a 12 personnes qui consultent la page, ben on rentre un petit peu en guerre contre les autres visiteurs. C'est soit ceux qui vont avoir le produit, soit c'est nous. C'est comme, imagine la situation, tu arrives dans un magasin et tu as quelqu'un qui a son caddie à sa gauche, toi tu es à sa droite, et tous les deux vous vous dirigez vers le rayon où il y a le dernier produit, et il en reste un seul sur l'étagère. Donc là, tu te dis, ben, c'est soit lui, c'est soit moi, tu vois.
Bien sûr.
Et ben, c'est un petit peu comme ça. Si vous arrivez à créer cette sensation-là, de dire, si je ne le prends pas maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre. Dans ce cas-là, là, vous avez fortement augmenté vos chances de vendre le produit.
D'accord. Et ce n'est pas simple.
C'est pas simple. Il faut trouver le bon dosage, comme je disais au début. Et ça passe par des A-B tests. Il faut tester du wording. Il faut tester des accroches. Il faut tester différents angles un petit peu marketing. Est-ce qu'on offre la livraison sans première commande? Ou est-ce que la livraison est offerte à partir de X euros? Et voir ce qui convertit le mieux.
C'est pour ça que la précommande avec des stocks limités et les systèmes de drop fonctionnent hyper bien. On a vu des e-commerce passer où les mecs, ils avaient en fait, ils vendaient que entre tel jour et tel jour. Il y avait tant de quantité et en fait, le truc, le stock s'écoule en quelques heures parce que tu as vraiment ce FOMO qui s'installe de te dire je sais qu'il y a un stock limité et que j'aurais peut-être pas cette pièce unique entre les mains si je me dépêche pas. Donc il y a une façon de l'amener, effectivement. Il ne faut pas que ça fasse dropshipping, il ne faut pas qu'il y ait des trucs qui clignotent sur ta page et qui disent ouais, il y a X personnes qui sont en train de regarder le produit. Ça marche pas et ça sert à rien. Enfin, c'est du dark pattern. Mais en revanche, il y a des moyens un peu détournés de montrer que, et parfois c'est une réalité, que les stocks sont limités, notamment dans les précommandes. Il n'y a que 500 t-shirts à commander, c'est 500 premiers, 500 qui arrivent, 500 sont servis et pas les autres.
Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait une anecdote qui était assez rigolote. Je crois que c'était une marque qui faisait des parfums, des fragrances. J'ai plus le nom en tête, mais eux, ils vendaient une fois par an. C'est-à-dire que toute l'année, ils faisaient du nurturing, donc ils maintenaient un petit peu la hype sur la vente annuelle. Et ils ont fait plusieurs millions de dollars en une journée sur l'année, en fait.
Génial.
C'est une très grosse préparation, une très grosse logistique, parce qu'il faut plus ou moins anticiper les ventes. Il faut stocker énormément de produits et on n'est pas sûr qu'ils partent tous à 100%. Donc là, c'est un très gros coup de poker. Mais quand c'est fait, ça marche de folie, parce que là, tu te dis, toute la hype, elle est en train de monter. Et tout d'un coup, bam, ça arrive le jour J, tout le monde est comme des fous, et les gens, ils ont bombardé de mails les gens, et là, ça part direct. Donc c'est encore une autre approche extrême, mais tout ça pour dire qu'il faut, il faut créer cette sensation.
Ouais, créer du FOMO.
Voilà, exactement. Après, il y a forcément, s'il n'y a pas la réassurance nécessaire sur la page, le visiteur, il faut l'imaginer, comme je dis toujours, comme un chat, il arrive un petit peu à pattes de velours, et au moindre truc bizarre, et il bondit et il drop et il s'en va, quoi. c'est exactement ça qu'il faut imaginer. Le client, c'est un chat. Et donc, en fait, il faut éviter de lui faire peur le moins possible, de le rassurer le plus possible. C'est comme un chat. Si on s'approche doucement et qu'on fait pas de trucs chelous, le chat, il va venir, il va nous sentir, etc. Ben là, c'est un peu pareil. Si on construit notre page de manière la plus naturelle possible et que les infos s'enchaînent de manière la plus logique. Ok, on présente le produit, machin, on met de la rassurance. Ok, il y a tant d'avis, tant de gens qui l'ont acheté. On a une note de 4,8 sur 5. On est recommandé par tant d'influenceurs, ceci, cela. La personne a dit, ok, c'est logique, c'est cohérent. Il raconte une histoire. Elle a l'air vraie. Ok, j'adhère et go, quoi.
Ok.
Ouais, je t'avais pas prévenu, Danilo, que Laurent avait des comparaisons un peu douteuses parfois.
Franchement, là, j'ai trop envie de l'utiliser comme une accroche LinkedIn pour parler de la réassurance. Votre client est un chat.
C'est clair. Là t'as du risque.
Bon, je saurai la dédicace si je vois passer le poste.
Ouais, je ferai une dédicace. Écoutez, que vous avez raconté sur les pages Roddy, il y a un point sur lequel je veux vous challenger, parce que je me rappelle que Sébastien Tortue avait pas mal insisté sur un point dont vous n'avez pas vraiment parlé. C'est l'aspect un peu titre du produit, bénéfice. Il disait, ouais, c'est important de mettre un titre vraiment accrocheur qui donne envie de lire la page et aller lire ensuite le texte. On sait très bien que les textes à rallonge sur l'infoproduit, sur les caractéristiques, les bénéfices, la composition, c'est pas trop si les gens les regardent ou pas. Et j'ai envie de savoir, de votre expérience, est-ce que c'est des textes qui sont importants à mentionner? Si oui, est-ce que c'est des gros blocs ou des petits blocs? Lui, il parlait beaucoup des trucs qui s'ouvrent. Donc, curieux d'avoir votre avis là-dessus avant qu'on passe à la suite.
En fait, il y a plusieurs choses. Il a raison sur certains points. Le titre du produit, ça peut jouer beaucoup, mais on a l'exemple de Main Roast. Ils ont testé des types de produits qui marchaient, d'autres qui marchaient un peu moins bien. Ils ont beaucoup à tester le titre en lui-même du produit, non ? Mais ce qui a marché aussi beaucoup, c'est les bénéfices qui sont sous, soit sous le bouton d'ajout au panier, soit juste au-dessus. Enfin, en tout cas, il faut le mettre assez proche. Où il y a quatre petits checks, ou soit c'est des petits pictos, ou soit des emojis, ça dépend de la stratégie branding. Mais on doit vraiment comprendre très vite quels bénéfices, et surtout des bénéfices émotionnels, pas forcément des bénéfices fonctionnels. Parce que c'est plus simple de vendre une expérience positive plutôt que de dire, voilà, bah tiens, je sais pas, je prends un exemple, une bouteille d'eau voilà, qui est pétillante. Bah, je peux dire, voilà, fais des bulles comme Perrier ou ce que tu veux. Non, on va dire au contraire, c'est rafraîchissante. Ça va être un effet fraîcheur, intense, où on va se sentir bien hydraté pendant au moins deux bonnes heures, etc., etc. Ça, c'est beaucoup plus vendeur que de dire, bah voilà, c'est juste de l'eau pétillante, 1,5 litre, ça, les gens s'en foutent en fait.
Mais je me rappelle aussi un autre truc qu'il avait dit, enfin je suis d'accord avec toi là-dessus sur les bénéfices, il a parlé de bénéfices émotionnels, il avait dit aussi, ouais, il y a des choses, selon le produit que vous vendez, qui sont importantes. Donc par exemple, on avait donné les compléments alimentaires, il est évident que pareil, la composition du complément, ce qu'il y a dedans, les gens veulent le savoir avant d'acheter. Il disait, oui, tu peux le mentionner de manière écrite, mais tu peux en faire encore mieux et le mettre directement dans l'image, tu as une image très descriptive.
Ouais, c'est exactement ça. Main Roast, ils ont fait la même, ils ont formulé la même hypothèse, et d'ailleurs, c'est revenu parce qu'ils avaient mis un exit sondage sur leur shop, en disant, voilà, quelle est la chose que vous aimeriez connaître sur la page produit. Et les gens disaient, moi, ok, je ne comprends pas en gros la contenance du produit, qu'est-ce qu'il y a comme composant. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis directement le produit et tout autour, ils ont mis 20 grammes de ça, 12 grammes de ça, 5 grammes de ça, etc. etc. Et là, ça a converti énormément.
Voilà, ça, il y a des gens qui
ont ça. Ok. Ouais, ça, c'est beaucoup aussi en cosmétique. Hein,
cosmétiques,
notamment ce genre de choses.
Ouais,
alimentaire, ouais, exactement. Totalement. Après, ce qui est intéressant aussi, là, c'est quand on vise une stratégie d'augmentation du panier moyen, c'est de placer des bundles assez vite dans la page produit. Parce que si le client, il est convaincu des bénéfices produits, justement, va lui dire, un peu comme ce que fait Amazon, frequently bought together, ces produits ont été régulièrement achetés ensemble. Le but, c'est d'essayer de lui placer un deuxième produit qui est complémentaire. Par exemple, je prends un exemple, vous avez des produits pour le mal de dos, vous dites, tiens, je vais lui proposer un produit pour les cervicales ou quelque chose comme ça, vous voyez.
D'accord.
Donc, hyper intéressant de se dire, il faut aussi, dire, c'est ce qui est intéressant, c'est que un produit en général, il n'est jamais vendu tout seul, il y a toujours une complémentarité quelque part. Si je vends une lampe de poche, je vais vendre les piles qui vont avec.
Bien sûr.
Donc il faut trouver cette complémentarité et la vente. Et en fait, comme la complémentarité sera logique pour les gens, il y a 80% du temps, ils vont l'apprendre en fait.
Et est-ce qu'on le fait en double temps, c'est-à-dire au moment où on ajoute, au moment où le clic sera ajouté au panier, ou alors sur la page produit même, les deux, qu'est-ce que vous conseillez?
Soit on l'AB test, parce que ça pour le coup, c'est l'objet d'un AB test. Certains vont être un peu embêtés par le pop-up, parce que ça va apparaître en pop-up. Et d'autres gens, ça dépend de la cible, en fait, comment elle va se comporter sur le shop. Ça, pour le coup, c'est un vrai objet d'AB test.
J'ai compris, ok. Bon, c'est très complet, tout ça.
Ensuite, maintenant, on continue notre histoire. On arrive au panier flottant, si tu veux reprendre un petit peu la main, Pablo. Une fois que finalement, on a réussi enfin à faire cliquer sur ajouter au panier à la personne, le panier, il s'ouvre. Souvent, il arrive de la droite, ce qu'on appelle les paniers flottants, ou alors il arrive directement sur une page panier, ce qui est un peu moins recommandé de nos jours, puisqu'on préfère des parcours de plus en plus fluides. Et donc, le panier flottant s'y prête extrêmement bien. Et pour ça, il y a plusieurs choses qui aident à améliorer la conversion. Premièrement, c'est ce qu'on appelle la barre d'objectif, qui est tout en haut, donc ce que disait Pablo tout à l'heure. Offrir la livraison à partir d'un certain montant, On peut avoir des goodies, on peut avoir des échantillons, on peut avoir voilà, plusieurs avantages, moins 20% sur la commande si on arrive vraiment en bout de ligne d'objectif.
Barre de progression, c'est important. Et je précise, c'est la petite barre voilà, qui peut avoir peu importe la couleur. Et généralement, sur des Shopify, ça se voit beaucoup. C'est en haut, plus que 30 euros pour avoir la livraison offerte ou plus
que X. Exactement. Voilà, okay. Ça, c'est top. Et ensuite, bah, comme fait Respire ou autre, hein, des upsells en one click qui sont souvent soit dans une colonne verticale, soit dans une rangée horizontale dans le panier flottant.
Ouais.
Et également, préciser aux clients les frais et les taxes qui peuvent être calculées à l'étape suivante. Déjà, cette mention, il faut la virer. Et par contre, il faut anticiper les questions qui vont se poser concernant la livraison surtout. On va expliquer que voilà, livraison estimée à telle date et pour tel montant si elle est payante. Si elle est gratuite, dans ce cas-là, vous mettez livraison plus loin en phase gratuite et date estimée de livraison entre le 12 et le 15 octobre, par exemple. Voyez.
Ça, tu le mets dans le panier flottant, mais c'est pour bien comprendre, tu ne mets pas le frais de livraison, tu le mets.
Ça dépend si la livraison elle est offerte. Bah, dans ce cas-là, on met livraison offerte. Si la livraison est payante, dans ce cas-là, il faut lui mettre estimation du montant de la livraison. Parce que comme souvent dans le checkout, on peut avoir plusieurs options de livraison. Bah, on lui met la moins chère, la première, la standard. On ne va pas lui mettre la premium ou la VIP avec garantie, extension ou autre.
Ouais, mais ce point de la livraison, il est très important. Et Danilo, t'en parlais d'ailleurs dans ta newsletter, il me semble, il n'y a pas longtemps. C'est que une des principales raisons de des abandons de panier, c'est la livraison. Je ne sais pas si tu te souviens là, des points que tu as listés, Danilo, dans ton mail, mais je crois que tu en as 5. Et sur les 5 points, tu en as 3, ça touche la livraison. La livraison, c'est vraiment le plus gros pain point des abandons de panier. Et donc, il faut que dès la page produit, vos utilisateurs, ils sachent quels sont les frais de livraison. Il faut avoir l'information dès la page produit. Il ne faut pas attendre le checkout.
Ouais, clairement. Ouais. Et le deuxième point, d'ailleurs, c'est souvent le point qui est complémentaire, c'est les retours. Est-ce que les retours sont gratuits, sont offerts? Est-ce que les retours sont à ma charge? J'ai combien de temps pour retourner le produit? Donc, ce qui est intéressant, souvent, ce qu'on fait, nous, c'est qu'en dessous du bouton commander, donc dans le panier flottant, on met 3 pictos. On met la livraison, voilà, si elle est offerte, on le met bien. Les retours, s'ils sont offerts, gratuits, on le met également. Et souvent, on met un troisième argument commercial qui est en fonction de la stratégie client. Oui. Ça, c'est un peu du bonus. Mais c'est intéressant de le préciser à cet endroit-là, juste proche du bouton où on part sur la commande.
Et on met quoi comme bouton, là, vous savez, sur le panier flottant? Est-ce qu'on met acheter, passer à l'étape suivante, commander? Enfin, rappelez-vous ce qu'on s'est dit au début.
Alors là, il y a plusieurs écoles, mais le mot à bannir, comme j'explique au début, c'est le mot payer. Ça, faut absolument éviter. Tout ce qui est champ lexical autour du mot payer, c'est à bannir absolument. Et
payer, acheter, acheter aussi.
Voilà, hein. Exactement. Ce qu'il faut, c'est essayer de tourner un peu autour du pot en essayant de faire comprendre la chose. Donc, ça peut être typiquement passer la commande.
Commander, ça marche bien.
Ouais, ça peut être commander tout simplement. Ça peut être valider mon panier. Ça peut être choisir ma livraison. Comme ça, on sait que l'étape d'après, bah, on va custom ma livraison.
Oui.
Ça, il paraît, c'est du wording qu'il faut A/B tester. Hein.
Très important, je suis d'accord avec vous. Okay. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, mais on bannit payer et commander.
Exactement, on évite payer en tout cas, mais commander dans le slide card généralement ça marche plutôt bien, et sinon on teste d'autres wordings. En fait, il faut qu'en tout cas, quand tu cliques sur le bouton, le wording qui est utilisé t'indique ce qui va se passer après. Ça, c'est bien une règle de base pour les call to action. Si tu cliques sur le bouton et que tu as mis, je sais pas, payer, en fait, tu arrives sur la livraison, on comprend rien. Donc, non,
et là, sur le coup, je pense vraiment que voilà, regarder 2-3 e-commerçants, ça peut aider.
Clairement,
ouais, exactement. Exactement, et je voulais juste rajouter un truc par rapport à ce que disait Laurent. Il y a aussi Laurent, je ne sais pas si tu t'avais prévu de le dire, mais c'est le one-click payment qui est intéressant à mettre dans le slide cart, dans le panier flottant. Donc d'avoir ton bouton commander, mais aussi ton bouton acheter en un clic. Ça peut déjà être intéressant de le mettre à cette étape-là.
C'est vrai.
Ouais. Sur la page produit, attention, c'est à double tranchant de mettre le ajouter en un clic. Faut A/B tester, ça c'est obligatoire. Parce que ça dépend de ton business, ça dépend de ton panier moyen, ça dépend de plein de trucs. Parfois, le bouton ajouter en un clic, il est trop confusant. Parfois, il marche très bien. Enfin, vraiment, ça, c'est A/B testé. En revanche, dans le panier flottant, ça marche plutôt bien.
D'accord.
Mais A/B testé quand même, hein, je le précise aussi. Ça, c'est quand même assez structurant, donc il faut A/B tester.
Ouais.
Dans tous les cas, de toute façon, dès qu'on a le moindre doute, c'est obligatoire A/B test.
D'accord. Okay.
Donc là, on arrive enfin à faire commander. Enfin, en tout cas, faire passer dans la partie checkout le prospect. Et donc ici, en fait, ce qui va être important, c'est ce qu'on appelle la dernière ligne droite. Il est conquis par le produit, il est conquis en général par la marque, par l'expérience qu'il a vécue jusque-là. Maintenant, c'est les dernières questions. Si on parle des délais de livraison, on parle des retours offerts, est-ce que c'est les échanges, est-ce que si j'ai un pet avec, j'arrive pas à commander, le paiement il passe pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux commander le support, ou est-ce qu'il faut que je quitte le checkout pour revenir sur le site et trouver un numéro de téléphone ou un email de contact, enfin, c'est horrible. Donc là, il faut vraiment tout faire pour qu'il ait vraiment tout sous la main, toutes les réponses à ces questions. Donc il y a Buzz qui fait très bien ça, il y a aussi le site de compléments alimentaires là.
Dijon ? Non.
Non. Ouais, Dijon le fait un petit peu aussi. Ça me revient. Au pire, on coupera en montage. Tu sais, le site tout vert là du mec qui fait QVMA.
Non. Du mec qui
ils
fait.
Ils sont verts, ils sont bleus. Oui. Attends, ça revient.
Je ne sais plus.
Donc le mec qui présente chez QVMA, Feed. Je vais voir.
Ouais, Feed, exactement. Ah, Feed le fait très bien dans son checkout. Donc ça, voilà, il y a ça qui est à prendre en compte. Et je ne sais plus où j'en étais, ça va me revenir. Donc on parlait de la rassurance dans le checkout. Donc il y a Feed qui fait très bien ça. Donc on peut les contacter rapidement. Il y a un petit encart support, téléphone, mail et autres. On comprend à quelle étape du checkout on en est. Donc la première, deuxième, troisième ou quatrième étape. Or, maintenant, on a le one page checkout de Shopify qui est très très bien fait, qui a été délivré donc à tous les e-commerçants. Avant, c'était seuls quelques commerçants qui avaient la chance de pouvoir être en bêta test. Mais là, maintenant, tous les commerçants Shopify ont le one page checkout, donc ça devrait largement améliorer la conversion. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est bien clarifier les modes de livraison, parce que souvent c'est un peu obscur, où les gens ils laissent les trucs par défaut de Shopify, et par défaut de Shopify, ben malheureusement c'est bidon, c'est juste marqué livraison standard, entre parenthèses 2-3 jours ouvrés, et on comprend pas exactement c'est quoi.
Ouais, c'est horrible ce checkout là, ouais, il faut arrêter celui-là, il est affreux le checkout de Shopify.
Ouais, il est affreux, mais il convertit plutôt bien en fait.
Il est vraiment pas personnalisé, ça fait.
Ouais, non, il faut le personnaliser, c'est clair.
Je trouve que ça fait amateur. Désolé, mais ça fait amateur hein, pour ceux qui l'utilisent. Sorry, je veux pas vous parler mal, mais c'est amateur. Donc,
En fait, si tu personnalises pas à minima le bandeau au-dessus, les couleurs et le wording, c'est trop basique en fait. Parce que ne serait-ce que le copywriting du checkout Shopify, il est pas bon. C'est des termes un peu robots, ouvrir une session pour se connecter, enfin ça veut dire quoi ouvrir une session, tu vois, c'est pas personnalisé, du coup tu t'es pas à l'aise quoi, c'est clair.
Même dans les boutons, on peut personnaliser toute l'écriture de partout, c'est-à-dire que le bouton, ce qu'on fait, c'est en général nous on change par valider par continuer vers la livraison entre parenthèses 2/3 pour qu'on comprenne que on passe de l'étape 2 vers l'étape 3 et on va vers la livraison. Donc, bien expliqué, comme disait Pablo, l'étape d'après, en fait. Anticipe l'étape d'après, c'est super important. Ouais. Et heureusement, d'ailleurs, Shopify a laissé la main pour pouvoir corriger tout le wording du checkout, parce qu'en effet, il y en a beaucoup, beaucoup à corriger qui ne sont pas forcément très parlants ou très pertinents. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le multi-paiement. Plus vous allez mettre de propositions de paiement, donc ça en fait a un double avantage, c'est que si vous laissez un seul paiement rapide, donc en général, c'est le PayPal Express, les gens, en fait, on s'est aperçu de ça avec l'expérience. Les gens pensent qu'ils sont en train de créer un compte PayPal quand ils sont dans le checkout, puisqu'ils voient le logo PayPal et juste en dessous, ils ont un formulaire et ils se disent, mais je vais créer un compte PayPal, c'est quoi le truc là? Alors que s'ils voient plusieurs modes de paiement rapides, ils voient PayPal Express, ils voient GPay, ils voient ShopPay, ils voient Apple Pay, là, ils se disent, ok, ça c'est les paiements rapides, j'ai bien compris, maintenant en dessous, je suis dans le paiement standard quoi.
Bien sûr, ok.
Donc vraiment double bénéfice à mettre plusieurs moyens de paiement. Et voilà, donc on a parlé de la rassurance, les délais, les descriptifs aussi des modes de livraison, bien expliquer à chaque fois quelle livraison est rattachée à quel montant et quel bénéfice. Et également, le plus important, mais c'est le mode invité. Si vous pouvez passer par un mode invité, c'est toujours mieux que forcer une création de compte, surtout pour un paiement unique où la personne ne sait qu'elle ne reviendra plus jamais sur ce shop-là. Donc, c'est vraiment très dommage, quoi. Et le ShopPay, qui est pour moi, à l'heure actuelle, une solution ultra, ultra pertinente, parce qu'en fait, les gens, ils ont créé un compte une fois sur ShopPay, et comme majoritairement maintenant, les commerçants sont sur Shopify, puisque ça devient un petit peu la norme, je crois que c'est 85%, enfin, c'est énorme. Bah, en fait, les gens switchent d'un Shopify à l'autre, mais ils gardent leur compte, ce qui fait qu'ils peuvent payer en un clic, quoi.
Oui, j'avais déjà fait ça. Ok, je vois.
C'est une sorte de compte, sorte de compte portable, quoi.
Tout le monde l'active pas, le Shop Pay, je pense. Il y a des e-commerçants qui l'activent pas forcément. Parce que je l'ai pas vu sur tous les sites Shopify.
Exact.
Ouais, mais ça va commencer à devenir la norme, hein. Les gens, il faut vivre avec son temps. Et là, en ce moment, Shop Pay, ils apprennent la main.
Ça dépend de ton prestataire de paiement, il me semble aussi. Tu vois, je sais pas si tu peux utiliser Shop Pay si tu passes pas par Shopify Payments et si tu passes par un Stripe ou autre chose. Le monde, c'était pas bloqué à ce niveau-là. Je sais pas vérifier, je sais plus, mais. Il y a peut-être cette problématique-là.
Mmh. Ok. Deux choses que je veux ajouter sur la page de paiement. Bah déjà, faire un petit coucou à nos amis de chez Payplug avec qui on va peut-être faire un podcast un jour, je ne suis pas trop sûr. Parce qu'eux, ils ont bah, voilà, une solution où tu personnalises totalement ta page de paiement, tu as une page de paiement unique, tu la personnalises comme tu veux. Donc, je trouve ça quand même sympa comme outil. Et ils ont aussi des très bons conseils là-dessus. Mais je pense que ça va vraiment valoir un podcast dédié parce que cette page-là, elle est méga importante et il explique vraiment tu gagnes quelques pourcentages sur la conversion sur la page de paiement. Ça peut aussi faire une grosse différence. Trop bien. Surtout dans l'acceptation avec les moyens de paiement, comme vous savez, avec le 3D Secure, etc. Ça sert peut-être encore de ce que vous faites. Et deuxième point pour vous, plutôt, c'est est-ce qu'on retire la navigation de la page de paiement ou non ?
Elle est retirée par défaut, là. Enfin, ouais. En tout cas, pour Shopify.
Idéalement, tu la retires, ouais, Danilo. C'est la base maintenant. Il faut que t'enfermes l'utilisateur dans un tunnel. Il faut qu'il soit concentré. Là, il veut passer à l'achat. Il veut juste payer. Shut up and take my money. Donc, tu mets tout en œuvre pour qu'il puisse payer facilement et qu'il n'y ait aucune friction et aucune hésitation. Donc, il n'y a pas besoin de mettre un header avec des liens vers la home, parce que sinon, tu as des fuites. Tu mets juste un lien vers le panier, peut-être, pour revenir à ton panier quand même. Et c'est tout. Et après, le footer, ce n'est pas le même footer. Tu mets ultra simplifié, tu mets juste mention légale, politique de confidentialité, et c'est tout. Tu n'as pas besoin de mettre tous les liens.
D'accord avec toi.
Et par pitié, ne mettez pas un bouton « Continuer mes achats ». En haut, il y a des commerçants qui font ça. Juste sous le logo, ils mettent un bouton « Continuer mes achats » avec une flèche vers la gauche. C'est un bon retour shop. Il a deux doigts de payer et toi, tu lui renvoies vers le shop.
C'est un peu stupide sur le coup. Ok. Ouais,
malheureusement, on l'a vu. Donc,
Ok, et encore une fois, on fait attention au bouton, celui qui amène à l'étape suivante, à moins que ce soit une page de paiement en une seule page plutôt que plusieurs. Je vois ce que je veux dire, c'est qu'on clique sur un bouton.
One page.
Voilà, one page checkout.
Ouais, le one page checkout, juste un mot là-dessus. Aujourd'hui, on n'a pas encore assez de recul pour voir les bénéfices sur les Shopify qui l'ont intégré. Ouais. En revanche, les sites, il y a des études qui ont montré que tu gagnes ça va de. En moyenne, c'est plus 10% de conversion dans le checkout. Ça peut aller jusqu'à plus 30-35% de conversion en passant en one page checkout. Mais le chiffre qui ressort pas mal, c'est plus 10% quand même sur des gros sites américains. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore assez de recul sur les Shopify en France, mais là, on a même, par exemple, nous, on a des exemples de clients qui nous disent, pour l'instant, on ne voit pas trop l'apport. Enfin, ça n'a pas trop bougé. Donc, il faut un peu plus de recul, un peu plus de données, je pense, pour tirer des conclusions là-dessus. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air de faire de mal. En tout cas, à la conversion, ça, c'est clair.
D'accord. OK. En tout cas, c'est ce que PayPal parle beaucoup, c'est le one page checkout.
Exactement.
Ok, bon, écoutez, on va avancer sur les deux dernières questions.
Ouais.
Avant que je les pose, essayons de faire, je dirais, 10-12-8 par question grand max, on va trop déborder, à mon avis. Ça vous va ? Ben, moi, je suis hyper content de la discussion, comme vous le savez, mais le temps passe, donc faisons attention.
Mais d'accord.
Ça va pour
trop
vous ?
Trop cool. Ouais, nickel, Danilo, on fait comme ça.
Ok, top. Du coup, les gars, j'avais une question importante sur les KPI, c'est une question plus, elle est plus pour moi, je dirais, enfin... Du coup, les gars, j'avais une autre question par rapport au CRO sur les KPI. C'est les KPI que vous regardez généralement pour mesurer la performance CRO d'un site. Donc, vous comprenez ce que je veux dire, alors que moi, je regarde toujours les KPI plutôt acquisition et c'est ça dont je parle dans le podcast. Mais je ne vois pas forcément des KPI pour mesurer la performance CRO. Et pareil, sur la partie AB test, qu'est-ce que vous regardez comme indicateur pour mesurer la progression d'un AB test, donc est-ce que c'est réussi ou pas réussi. Voilà, je vous laisse enchaîner.
Ouais, bien sûr. Alors, nous, il y a des KPIs qu'on aime bien regarder en priorité en tant que CRO, mais pour nous, comme vous le savez, le KPI ultime, ça va être le taux de conversion, bien évidemment. Nous, ce qu'on aime bien faire déjà quand on commence à bosser avec des clients, c'est comparer le taux de conversion de nos clients avec le taux de conversion du secteur d'activité. Parce qu'on dit que généralement, le taux de conversion en e-commerce, c'est à peu près 3% desktop et 1,6% mobile. Mais en fait, ça dépend des secteurs d'activité. Je te donne deux exemples. Tu vas avoir, par exemple, le secteur de la santé et du bien-être, qui va être plutôt à des taux de conversion autour de 3-3,5%. Donc, c'est assez élevé. Les animaux, c'est assez élevé aussi. C'est, en fait, quand ça touche un peu au côté bien-être ou à l'émotion, les taux de conversion sont bien meilleurs. Et après, inversement, je peux te donner, par exemple, tout ce qui va être les vêtements. Les vêtements, pour le coup, c'est un peu plus faible. Ça va être plutôt entre 1 et 2%. Alors, ça dépend des études, mais en gros, on est entre 1 et 2%.
Donc, et je pense que ça dépend. La maison, ça va être encore moins élevé. Excuse-moi de t'interrompre. C'est des trucs très chers et tout. Donc, je ne sais pas si tu as l'info. Mais...
Ouais, ouais, carrément. On est sur.
Le luxe,
ouais, on est sur...
le luxe c'est 1%, je crois.
Alors, le luxe, c'était entre 1 et 1,10 à peu près. Effectivement, ouais. Ça a un petit peu augmenté ces dernières années. Accessoires pour la maison et articles cadeaux, tu es plutôt à 1,5, entre 1,5 et 2. Donc, tu vois, c'est un peu plus faible, effectivement.
Okay.
Voilà. Donc, et les le jardin, c'est un peu plus faible aussi, parce qu'effectivement, je pense que c'est des plus gros produits. Donc, le taux de conversion, on le compare à la conversion du secteur et on se dit. Ok, est-ce qu'on est bien ou est-ce qu'on n'est pas bien par rapport à notre secteur d'activité ? Et c'est là où on va essayer d'optimiser un peu les choses. Donc, d'accord. Le premier truc que vous devez surveiller, c'est le taux de conversion. Vous surveillez le taux de conversion comme le lait sur le feu. Il faut surveiller ça toute l'année, tout le temps, tous les mois, il faut regarder. Parce que s'il y a un problème dans tes ads, s'il y a un problème, je ne sais pas, sur une page, ou tu as un problème de paiement sur ton checkout, tu as un problème avec la livraison, etc., bah, c'est la conversion qui va te montrer que là, tu as un drop de conversion, donc tu as un souci sur ton site. Donc, c'est le meilleur indicateur.
Il y a juste une petite aparté par rapport à ça, c'est que le taux de conversion, c'est super important, mais il faut le corréler aussi au revenu par utilisateur, le fameux RPU. Parce qu'imaginons, on a un taux de conversion qui est un poil plus faible, genre, admettons, je sais pas, 1,5, avec un RPU assez faible, et on a un taux de conversion qui est un peu plus faible, genre 1,2, 1,3, mais avec un RPU qui est beaucoup plus fort, parce qu'on a augmenté les paniers moyens, enfin, il y a eu beaucoup de strates d'upselling, etc. Finalement, on se réfère au RPU final, qui est que à trafic équivalent, je gagne plus d'argent avec un taux de conversion un poil plus faible, mais avec une strate globalisée sur le shop un peu plus agressive. Donc, un taux de conversion plus bas, c'est pas forcément fatal. Il faut pas être fataliste par rapport à ça. Ça peut être au contraire très bénéfique.
En fait, c'est le RPU, c'est le revenu par utilisateur. On dit aussi le RPS, revenu par session. Ça englobe le taux de conversion et le panier moyen. Parce qu'en fait, c'est les deux que tu cherches à optimiser. Tu peux optimiser des choses au niveau de la conversion, mais derrière, ça peut faire dégringoler ton panier moyen. Et donc, au final, ton revenu par utilisateur est diminué. Donc, ça t'intéresse pas. Il faut vraiment surveiller les deux métriques. Et les deux métriques combinées te donnent le RPU. Donc, c'est ton RPU que tu dois suivre dans le temps.
RPU,
c'est super, ça, c'est bien. Hyper important. Donc le panier moyen, on le suit. Il y a un autre KPI qu'on aime bien regarder, c'est le taux d'ajout au panier. Je vous explique pourquoi. En gros, tu as ton taux de conversion, tu as ton taux d'ajout au panier. Avec Laurent, on a théorisé un chiffre qui se vérifie sur tous les e-commerçants qu'on a accompagnés. C'est qu'en gros, généralement, quand tu prends ton taux d'ajout au panier et que tu le divises par 2,5, et d'ailleurs, il y a d'autres agences qui ont aussi ce chiffre en tête. Il y en a certaines qui avancent le chiffre de 3. Bon, ça dépend des agences. Mais en gros, quand tu divises ton taux d'ajout au panier par 2,5, tu es censé obtenir ton taux de conversion théorique idéal. Si tu vois que ton taux de conversion dans la réalité est plus faible que ce taux de conversion théorique, donc si ton taux de conversion dans la vraie vie il est inférieur à ton taux d'ajout au panier divisé par 2,5, ça veut dire que tu as un problème en bottom funnel. Tu as un problème dans le check-out.
Panier flottant ou check-out, il faut vérifier.
Exact, panier flottant ou check-out, ou alors... T'as une autre raison, c'est que ta politique de relance panier, on n'a pas parlé d'emailing, mais c'est hyper important, la politique de relance panier n'est pas assez bonne. Donc ça, c'est hyper pratique comme calcul, parce qu'en 30 secondes, tu peux définir où est-ce que est la plus grosse fuite sur ton site.
Où ça pêche,
exactement. Est-ce que c'est dans mon checkout ou ma relance panier, parce que mon calcul n'est pas bon, ou est-ce que au contraire, il y a des e-commerce où quand ils prennent leur taux d'ajout au panier divisé par 2,5, ça donne, ils ont une conversion qui est au-dessus, donc ils sont bien en bottom funnel, mais il faut qu'ils optimisent le top funnel. Il faut qu'ils augmentent le taux d'ajout au panier.
Il faut qu'ils augmentent le charbon, plus de charbon.
Exactement.
Dans la machine.
Voilà. Donc, ce calcul, il est tout bête, mais il est hyper important pour savoir déjà où est-ce que tout à l'heure, on disait dans le process CRO, tu fais des études data. Bah, ça fait partie de la recherche data. Tu sais, déjà, en 30 secondes, tu sais, est-ce que tu vas devoir concentrer tes efforts sur le checkout ou plutôt sur la home, la page produit, la page collection.
Ok. Donc, ça, c'est ça. Divisé par 2,5. Je garde ça en tête.
Exactement. Exactement. Le RPU, Laurent en a parlé, et après très rapidement, et après je passe juste au KPIs AB test, on surveille plein d'autres choses. La vitesse du site, c'est important à surveiller, parce que si tu as un site qui est lent, ça baisse ton taux de conversion. Les deux sont très corrélés, plus que vous ne le pensez, donc il faut vraiment travailler la vitesse de son site et il faut la surveiller. Après, il y a tout ce qui est taux de rebond, taux de sortie. Le taux de sortie, c'est intéressant parce que tu vois les pages qui ont les plus grosses fuites en fait, de ton site.
Oui,
dans les pages les plus vues de ton site, tu vois les pages qui ont le taux de sortie le plus élevé. Et donc comme ça, tu vas te dire, je vais essayer de me concentrer sur ces pages-là pour essayer de colmater un peu les fuites. Donc ça, c'est intéressant. Et après, tu as taux d'abandon de panier, taux de récupération de panier. Bon, ça, c'est classique. Taux de réachat pour ceux qui font de l'abonnement et du recurring. Le taux de retour, c'est toujours intéressant de le surveiller dans la durée aussi pour voir s'il y a des problèmes ou pas. Et après, tu as tous les classiques que tu connais, Danilo, c'est la LTV, le CA, la marge. Il y a des trucs aussi intéressants pour finir sur les KPI secondaires qui sont cool à regarder. C'est la conversion par device et par navigateur. En gros, en regardant ton taux de conversion par navigateur, tu peux voir s'il y a des navigateurs qui pêchent. Par exemple, pour un client, nous, on avait vu que sur Safari, le taux de conversion était très faible, il avait complètement chuté. Et c'est qu'en fait, tu avais des bugs sur Safari que tu ne voyais pas sur Google Chrome.
Bien sûr, ouais, ça peut arriver.
Ça peut arriver. Donc, c'est intéressant aussi de regarder les navigateurs.
C'était les fameux menus déroulants, tu sais. Ils déconnaient et ils n'arrivaient pas à s'ouvrir. Donc, ce qui fait que toutes les caractéristiques, etc., c'était illisible. Donc, bug Safari. D'ailleurs, Safari, ça rend fou les devs, pour info.
Ouais, c'est clair. Tout le temps.
C'est l'enfer des devs. Et d'ailleurs, juste pour terminer sur ce que disait Pablo à l'instant, c'est hyper important. Et nous, on a changé beaucoup notre fusil d'épaule dans notre organisation. C'est que maintenant, quand on prend un projet client, tout de suite, on clean la vitesse du site. Parce que c'est quasiment 50% du job déjà qui est fait. Avec un site qui est ultra rapide par rapport à un site escargot, la différence, elle est monstrueuse dans la conversion. Et première chose qu'on fait maintenant, c'est qu'avant, on se battait directement sur la conversion et autres. Et on mettait un petit peu au second rang la vitesse du site. Enfin, on disait, on va le faire juste après. Mais en inversant les deux phases, d'abord, on clean le site. On le met nickel en termes de technique. Il est fluide, il est rapide. Maintenant, on peut se pencher sur une base qui est saine, en fait, tu vois. Parce que sinon, on va chercher longtemps la conversion, pourquoi elle déconne. En fait, bah, c'était tout simple, parce que le site, il met 8 secondes à charger.
C'est trop loin. Ok, d'accord.
Exactement. Et pour finir, juste sur les chiffres que tu demandais, Danilo, et pour finir de répondre à ta question, c'est sur la partie A-B testing. Nous, ce qu'on va beaucoup suivre quand on fait des A-B tests, c'est le fameux RPU dont parlait Laurent, donc le revenu par utilisateur. Le RPU, il y a quoi dedans ? Il y a le taux de conversion et le panier moyen. Donc, c'est surtout ça qu'on va suivre. Tout à l'heure, je vous disais, là, pour l'histoire du one-click payment, attention sur la page produit. Nous, on a l'exemple d'un client qui a mis le one-click payment sur sa page produit. Donc, le taux de conversion a augmenté, mais le panier moyen a diminué. Et au final, son revenu par utilisateur a diminué. Donc, ce n'était pas intéressant de le mettre sur la page produit.
D'accord, ouais. C'est là que tu regardes le RPU pour voir.
Pour avoir les deux, en fait, derrière, la conversion et le panier moyen. Donc, les outils d'AB test, eux, ils vont te dire, c'est les outils d'AB testing, on pourra en reparler après, juste à la question d'après, mais les outils d'AB testing te disent si, quand tu fais un AB test, donc tu vas tester deux variantes d'une page, tu as le témoin et le variant, donc une version A et une version B, et c'est l'outil d'AB test qui va dire, au bout d'un certain temps, bah, c'est cette variante qui convertit mieux avec une probabilité de mieux convertir à X%. Donc ça, c'est normalement les outils d'AB test te donnent ces infos-là. Tu peux aussi relier ton outil d'AB test à GA4. Il y en a certains qui le proposent. Je crois que Caméléon le propose, par exemple. Ou en gros, tes AB tests que tu es en train de faire tourner avec ton outil d'AB testing, tu as la data qui remonte dans GA4. Et donc, tu vois dans GA4 qu'est-ce qui convertit mieux, quelle audience convertit mieux que d'autres.
OK.
Et dernier truc, c'est qui est intéressant à surveiller aussi. Ça, c'est plus une métrique utilisée en gros hacking, mais qu'on utilise aussi en CRO. C'est ce qu'on appelle la P-value. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous saouler avec ça, mais en gros, la P-value, c'est une métrique que tu vas mesurer dans le temps quand tu fais un A-B test. Et plus cette métrique est faible, moins l'A-B test qui est lancé est dû au hasard. Et en fait, cette métrique doit être inférieure à 5% pour que tu te dises, OK, mon A-B test, il est concluant et il n'est pas dû au hasard. Tant que cette métrique n'est pas inférieure à 5%, tu peux pas valider ce test, en fait.
C'est ça, en gros, la probabilité que ce soit un test qui soit statistiquement significatif. OK.
Exactement. Et ça, vous le trouverez sur le web, il y a la formule pour calculer la p-value. Et généralement, de toute façon, un A-B test, ça dure quelques semaines. Donc, tu vas suivre la p-value pendant quelques semaines. Et au bout d'un moment, tu vas voir dans ton graphe que la p-value est inférieure à 5%. Et c'est là où tu te dis, c'est bon, mon A-B test est concluant. En tout cas, statistiquement, il est probant.
Parfait. Voilà. Bon, on va terminer ce podcast par l'A-B testing sur les éléments que vous conseillez de tester sur un site e-commerce pour améliorer la conversion. Et quelques petites questions subsidiaires si vous avez un peu le temps de m'en parler. C'est ce que vous avez d'approche testing en particulier? C'est quoi les éléments qui ont le plus d'impact sur la conversion? Est-ce qu'il y a des outils que vous recommandez? Est-ce que vous recommandez une certaine quantité de trafic pour valider un test? Et enfin, quel est le temps idéal pour un test? Voilà.
Exactement. En fait, comme on le disait au début, il faut tester et tester vraiment, vraiment beaucoup de choses, sauf celles qui sont pour le coup évidentes. Mais par défaut, prenez le principe qu'il faut A-B tester. Donc ça peut aller, comme on avait dit tout à l'heure, ça peut aller du titre du produit, aux descriptions produits, aux images. On peut tester vraiment énormément de choses. On peut tester des inversions de sections. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et qu'on encourage à faire. Même des choses qui pour vous paraissent bêtes, en fait, ça peut. Si l'hypothèse a été formulée par de la data, il faut la tester quand même. ça peut donner d'énormes surprises. Ou même des cas où on était certain avec Pablo, je crois qu'on avait un exemple d'ailleurs sur Wopilo, on avait testé sur les pages collection, je crois que c'était ajouter au panier ou plus d'informations pour passer de la collection au produit. En fait, on pensait tous que le mot commander ou je sais plus, je crois que c'était acheter, allait se faire éclater en A/B test. Et pour le coup, il a bien résisté et ça a fini quasiment 50-50.
C'était 50-50.
Ouais. Donc finalement, c'est pas si évident que ça tout le temps. Donc il faut prendre cette bonne habitude de tout A/B tester en fait. C'est vraiment la data qui va être juge de paix. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que on utilise soit plusieurs outils, ça dépend ce qui est déjà installé chez les clients. Sinon, on leur recommande soit de passer par Rojar, soit de passer par Clarity, qui est un outil développé par Microsoft. Il y en a d'autres aussi, mais voilà, c'est nous les deux majoritairement qu'on utilise. Il y a des minima en A/B test. Il y a des stratégies en A/B test aussi. On avait justement un podcast avec un des fondateurs de Nali, qui lui fonctionne beaucoup sur l'influence, donc sur Meta Ads. Et aussi, qui est à peu près 30% et 70% d'influenceurs sur Instagram. Donc, eux, le problème, c'est qu'ils ont des shots de visite, des pics, et ils ont une fenêtre très courte. Et le problème, c'est que nous, pour faire fonctionner des A/B tests, on a besoin d'une fenêtre assez longue. En général, on conseille 2 semaines pour valider un A/B test. Et on a besoin d'avoir un panel d'utilisateurs suffisamment élevé journalier pour que l'A/B test soit probant, quoi. Donc eux, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient complètement éludé les pics de visites de 3 jours via les influenceurs. Ils avaient fait leur A/B test uniquement sur le trafic froid qui était stable et lisse. Donc ce qui était plus pertinent en tout cas pour eux.
Ce qui est une best practice en fait. Tu vas faire plutôt tes A/B tests, Danilo, sur du trafic froid. Tu vois, si tu fais des campagnes de trafic froid sur tes ads, c'est là-dessus en fait qu'on va faire nos A/B tests et pas forcément sur du retargeting ou de l'influence parce que c'est trop biaisé en fait. Le retargeting et l'influence, c'est forcément des conversions qui sont meilleures. On préfère vraiment prendre un trafic le plus froid possible et se baser que là-dessus. Tu vois.
Et la quantité de trafic, c'est faut avoir combien de visiteurs plus ou moins pour faire une conclusion. T'as ton visiteur par jour.
Nous, on a quand même commencé à avoir des belles différences en termes de pertinence des résultats. Quand on approche le palier des 1000 visiteurs par jour, c'est 30 000 visiteurs mensuels. C'est largement atteignable quand on commence à avoir un peu de trafic blog, un peu d'ads, etc. On les a assez vite, les 1000 visiteurs jour. Et là, pour le coup, les A/B tests commencent à être assez pertinents sous 15 jours, 3 semaines. Ça dépend des fois, on laisse une semaine de plus parce qu'on n'a pas encore les fameux 97% de pertinence. Quand on est vers 93, 95, on commence à avoir un petit peu une overview de qui va remporter l'A/B test. Mais quand on arrive à les 97%, 98%, là, on est certain que voilà, on a la vraie réponse.
Ok, donc 2 à 3 semaines, ça veut dire potentiellement quasiment 20 tests par an, même plus.
Sur chaque page, c'est-à-dire qu'il faut se dire que tu as quand même
d'autres
A/B tests qui tournent en parallèle chacun sur cette typologie de page.
Oui, c'est ça, tu peux avoir des tests qui tournent en parallèle sur. Oui, je suis bête.
Bah oui, donc c'est en gros, tu fais entre 5 et. Parce que tu as 1 voire 2 A/B tests par typologie par mois sur 4 semaines. Donc ça veut dire que tu as. Allez, tu as 2 fois 4, 2 fois 5, entre 7 et 10 A/B tests validés par mois. Quoi.
Compris, très intéressant. Je veux bien qu'on vienne peut-être sur pour vous, les A/B tests qui ont le plus d'impact sur la conversion. Est-ce qu'il y a des que vous avez déjà fait un listing, je sais que vous êtes comme ça, comme nous avec les ads, on a les meilleurs axes, les meilleurs angles.
Donc, c'est ça, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on en a plusieurs qui sont vraiment, c'est les basiques, mais ceux-là, en général, on est assez vite des réponses, et souvent, c'est des réponses qui sont vraiment assez flagrantes. C'est A/B tester des images, un peu comme avait fait Main Roast, images produits seuls et images produits avec les composantes du produit autour. Le composant a explosé l'image produit seul, forcément. A/B tester aussi des variantes de prix. Vous seriez vachement surpris de savoir que des fois, des prix plus chers permettent de mieux vendre parce que justement, la valeur perçue est plus grande. Imaginons, je sais pas, vous vendez des montres de luxe, si vous les mettez à 200 balles, là, les gens, ils vont dire, c'est de la camelote, en fait. Alors que si vous mettez la montre de luxe à 2000, 5000, 5000 euros, là, les gens, ils vont dire, ça a l'air d'être de la bonne qualité, quoi. C'est de la montre suisse. Ils vont commencer à se justifier leur achat par des critères un petit peu luxe. Je sais pas, Il y a une certaine micro-construction hyper précise, voilà, avec un balancier, tout ce que tu veux. Et également, AB tester le titre du produit, on en parlait tout à l'heure. AB tester la proposition de valeur, l'USP sur la homepage, ça joue énormément. AB tester les différents angles marketing aussi sur les différentes landings, ça pareil, on en parlait au début du podcast. AB tester, c'est également les avis clients ou alors les vidéos qui présentent un petit peu les avis produits. Ça pareil, on en met 2-3 bien ciblés qui répondent chacun à un angle marketing bien précis, ou en tout cas à une question que l'utilisateur peut se poser sur les produits. Bah, on en teste deux, on voit avec Odjar les zones de chaleur ou les zones de souris sur lesquelles sont les plus statiques, et on se dit voilà, c'est cela qui percute le mieux. S'il y en a un qui est totalement délaissé à l'abandon, bah, celui-là il percute pas, on le change, on en met un autre à la place. AB tester aussi des vidéos ou images, ça peut jouer énormément. Parce que surtout dans les héros. Ouais.
Ah, d'accord,
dans les héros. On pourra peut-être dire là-dessus.
Ouais, les pages. Alors, je pensais surtout aux pages catégories. Il y a des A/B tests très intéressants à faire, tu sais, sur les photos produits, tu sais, de tes pages catégories. Est-ce que tu mets des pack shots ou est-ce que tu mets ton produit qui est porté par quelqu'un ou est-ce que tu mets juste ton produit avec un fond blanc ça, c'est des A/B tests qui sont hyper importants à faire parce que la page collection, on en parlait tout à l'heure, est très, très importante. Et en fonction du secteur d'activité, ça sera plus un pack shot qui va fonctionner que le produit en mise en situation. Et inversement, dans d'autres secteurs d'activité, je te donne un exemple. Attends, je réfléchis. Par exemple, tout ce qui est linge de lit, couette, tous ces trucs-là, les pack shots marchent bien. En revanche, dans le secteur de la mode, ce qui marche bien, c'est un mannequin qui porte le vêtement, tu vois. C'est pas forcément juste le t-shirt avec fond blanc. Donc, ça va vraiment dépendre de ton secteur d'activité. Les meubles, ça marche bien, mise en situation aussi. Quand tu vois le meuble dans un salon, tu te projettes beaucoup plus. Donc vraiment, ça, c'est à AB tester. C'est des images qui sont très intéressantes à AB tester sur la page collection et on vous encourage à le faire.
D'accord.
C'est ça. Après, tout ce qui est texte, alors il y a plusieurs AB tests à faire sur le texte. Le premier, c'est texte court contre texte long, donc ultra détaillé, vraiment rentrer à fond dans le détail, à la fois bénéfice fonctionnel, émotionnel, etc., etc. Ou alors des textes très courts et on insistera au contraire plus sur la partie visuelle. Donc vraiment faire deux landings de ce type-là, bien distinctes. Ouais, ouais. Et une dernière sur la partie texte, c'est la taille de police. Il y a très peu de gens qui AB testent la taille de police et on a eu des études là-dessus qui ont montré que les gens, lorsque la lisibilité était augmentée, la conversion en général le suivait de manière parallèle. Donc imaginons, je prends l'exemple de clients. On a un client qui insistait pour avoir une police d'écriture très petite. En desktop, on était sur du 14, je crois, 14 sur les textes. Et nous, on n'a pas arrêté de lui recommander de passer ses textes à 16. Et la conversion, elle aurait suivi largement s'il avait un petit peu écouté nos conseils. Malheureusement, ils sont restés sur du texte très petit. Et pour l'instant, ça, c'est encore, on va dire, en cours de négociation. Mais on arrivera à le faire passer sur du 16 et là, il verra que sa conversion va augmenter parce que le confort de lecture est beaucoup plus présent et donc la personne a envie de continuer à lire. Alors que si c'est tout petit, on est obligé de prendre une loupe pour voir les textes, bah, c'est pas confortable et on va dire c'est bon, on drop quoi.
J'ai compris. Ouais.
Ouf, donc, voilà. Sur les outils, peut-être je peux te donner un peu la liste, Danilo, rapidement sur les outils à utiliser en A/B testing. Ça dépend bien sûr du budget et de la taille de ton e-commerce, mais généralement les outils pour démarrer, alors avant il y avait Google Optimize, mais maintenant ça n'existe plus. Tu as quand même Google qui propose une solution, c'est Optimize 360, avec Laurent on en parlait ce matin, mais je crois que c'est payant ou ça va le devenir, je ne sais plus. Okay. Mais en tout cas, aujourd'hui, les solutions qui sont intéressantes, tu as dans les entrées de gamme, tu as Crazy Egg, qui est bien un outil un peu comme Odjar, qui propose de l'A/B testing et apparemment c'est pas mal. Moi, j'ai pas testé perso. Mais apparemment, c'est bien. T'as IntelliGems. On en parlait tout à l'heure. IntelliGems, c'est une application Shopify qui permet de faire de l'A/B testing sur Shopify, qui est pas mal aussi.
Ok. Parfait.
Et après, tu as pour des budgets un peu plus gros, mais qui sont des outils qui marchent très bien. T'as VWO, qui est le meilleur rapport qualité-prix du marché actuellement, selon nous. Donc, n'hésitez pas à le tester. T'as une offre gratuite qui marche déjà pas mal, où t'as, je sais plus, 30 000 sessions par mois, ou je sais plus combien que tu peux utiliser dans tes A/B tests.
Pour les petits budgets, hein, précisément. Pour les gros budgets, il y a des logiciels beaucoup plus compétents, mais
bien
il
sûr.
Faut sortir le budget. Quoi.
Là, je te mets, par ordre de budget, t'as VWO. Ensuite, t'en as un que je ne connaissais pas, qui s'appelle convert.com. C'est justement Sébastien qui m'en a parlé. C'est un outil d'A/B testing très, très agressif au niveau rapport qualité-prix. donc à tester, apparemment il est top. Et après vous avez les plus grosses qui est Chameleon et ABTesty, qui sont des gros logiciels qui coûtent très très cher à l'année. Donc là, vaut mieux être bien équipé ou avoir un e-commerce qui tourne bien ou être épaulé par des invests ou un grand groupe derrière parce que ça peut cogner. Mais c'est des outils qui marchent très bien aussi. Donc vous, je pense qu'avec un VWO, c'est vraiment très bien. Et testez aussi peut-être Convert.com qui a l'air d'être vraiment intéressant.
Parfait. Bon, on va conclure peut-être rapidement sur peut-être quelques tests que vous avez déjà menés pour vos clients, si vous pouvez en partager avant ce que ça veut dire pour vous.
Ouais, bien sûr. Alors, on en a listé quelques-uns. Après, on en a déjà cité quelques-uns pendant le podcast. Je peux t'en donner deux ou trois. Déjà, il y a un AB test dont on n'a pas parlé. C'est sur la page produit. Tu sais, parfois, sur les pages produits, et même souvent maintenant, sur les pages produits des e-commerce, tu as la possibilité de payer en plusieurs fois. Tu vois, tu as le petit truc Alma avec marqué x2, x3 pour payer en plusieurs fois.
Tu as Klarna, Afterpay. Il y en a vraiment beaucoup maintenant, des solutions comme ça.
Et bien, ça, c'est clairement à AB tester, les amis. Alors, vous allez hurler en me disant, mais comment ça, ça apporte que du bon? Bah, pas forcément, en fait. Déjà, il faut que tu regardes si au niveau de ton RPU, tu t'y retrouves. Et surtout, ça dépend des secteurs d'activité. Tu vas avoir des secteurs d'activité, notamment dans le luxe, où de payer en plusieurs fois, ça ne se fait pas, en fait. C'est pas bien vu. Et ça dégrade ton image de marque derrière. On l'a testé sur un client dans le luxe. On a testé, du coup, le x2, x3 ou x4, je ne sais plus, avec Alma. Et on s'est rendu compte derrière qu'on avait un taux d'ajout au panier, pardon, qui diminuait. Parce que ça, a priori, ça dégradait un peu l'image de marque.
Oui, et tu te loin, en fait, du côté accessibilité, parce que le but, justement, des marques de luxe, c'est ne pas être accessible au public lambda. C'est uniquement ceux qui ont les moyens de se permettre d'acheter cette marque-là. Donc là, si tu la rends accessible, tu en gros, elle perd son positionnement de marque de luxe, quoi.
100% d'accord.
Okay. Exactement.
Oh, ok, bon.
Donc voilà, après sur la page catégorie, on a déjà parlé, mais on a cité l'exemple tout à l'heure de. On avait fait des AB tests sur est-ce qu'on met plutôt un call to action découvrir, est-ce qu'on rajoute un call to action découvrir sur les vignettes produits ou pas. Et en fait, on a vu, oui, ça c'était un AB test assez marrant, en fait, on a vu dans le cas d'un client que quand tu mettais pas de call to action sur les vignettes produits, tu avais plus de clics sur les vignettes produits, ce qui est complètement illogique en fait. Tu te dis, mais pourquoi, si j'enlève mes boutons découverts sur mes vignettes produits, il y a plus de clics. Et c'est difficile de trouver une conclusion, mais peut-être que les utilisateurs sont du coup moins, comment dire, il y a moins d'informations à l'écran et ils sont plus focus sur les vignettes et du coup, ils cliquent plus. Mais en tout cas, on a eu des résultats qui montraient que d'enlever le bouton, ça permettait d'avoir beaucoup plus de transfert vers la page produit. Donc ça, c'est un peu marrant comme test. Donc, à voir de votre côté si ça marche.
Très bien.
Voilà. Et après, on parlait du one-click payment. Pareil, là, j'avais cet exemple-là, mais je l'ai déjà donné. Attention au one-click payment sur la page produit. Ça, c'est clairement à ABTC et notamment aussi dans le panier flottant parce que vous pouvez avoir des résultats derrière où vous avez peut-être un meilleur taux de conve ou pas d'ailleurs. Mais en revanche, un panier moyen qui fluctue trop et ce qui donne un revenu par utilisateur qui n'est pas assez bon, quoi.
Ok, compris. Waouh, quelle masterclass, franchement, bravo à tous les deux pour cette préparation
et
pour
ce... Et encore, on a dû se brider, là.
C'est ça.
J'ai dû aller un peu plus vite sur la fin. Écoutez, c'était incroyable, franchement, merci beaucoup pour tous ces conseils. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, échanger avec vous? Est-ce que vous avez d'autres choses à nous offrir pour ceux qui écoutent le podcast? Ce serait avec plaisir que je vous laisse cette opportunité.
Écoute, merci Danilo, c'est trop sympa, on a trop kiffé être là. Si les gens veulent nous contacter, il ne faut pas hésiter pour nous poser des questions ou voilà, nous demander notre avis sur des sujets CRO, on se fera un plaisir de leur répondre. Je pense que le meilleur moyen, c'est de venir nous voir sur LinkedIn, donc Pablo Lenormand ou Laurent Théry. On est assez actifs sur LinkedIn et on poste beaucoup sur le CRO, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message privé, on y répondra avec plaisir. Nous, on est passionnés de ça, on adore le e-commerce. Donc, aucun problème pour répondre à vos questions et se faire un petit call si vous avez besoin de débloquer une situation. Et puis voilà, et après sinon, le podcast Force et Conversion dont on a déjà parlé, où on parle beaucoup de CRO e-commerce.
C'est ça.
N'hésitez pas à y faire un tour aussi.
Nos invités également et les fameux hors-séries sur lesquelles on offre également beaucoup de conseils pertinents par type de page. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je pense que si Danilo est d'accord, on vous fournira deux études de cas qu'on a formulées avec nos clients. Et vous pourrez voir un petit peu comment on a procédé de manière très méthodique pour passer d'une conversion A à une conversion B et d'un RPU A à un RPU B. Ça, vous apprendrez énormément de choses. Voilà, parce qu'on ne peut pas non plus tout dire dans ce podcast. Hein, malheureusement, le temps de Danilo est très précieux comme le nôtre. donc voilà. Mais vous l'aurez sous le lien du podcast et également sûrement les vidéos de YouTube de Danilo.
Parfait, on fait comme ça, c'était un plaisir et j'allais dire également aller sur le site de Uxia, voir avec qui Pablo et Laurent ont travaillé, qu'est-ce qu'ils proposent exactement, donc n'hésitez pas à aller. Et je vous dis à tous à très vite, à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.
Ciao, ciao.
Merci Danilo, à très vite. Ciao.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu, inspiré et appris beaucoup de choses. Et si vous aimez les épisodes qu'on sort chaque semaine sur le rendez-vous marketing, ça m'aiderait beaucoup que vous puissiez en parler autour de vous ou nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça ne vous prend que 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du rendez-vous marketing.